conte de l'Alhambra, une course dans les montagnes. Souvent, au déclin du jour, quand la chaleur commence à s'apaiser, je fais de longues promenades à travers les collines et les profondes vallées, accompagné de mon écuyer historiographe, Matteo. En ces occasions, je lui permets de donner pleine carrière à sa verve conteuse. Et je ne sache pas qu'il existe un rocher, une fontaine ruinée, une clairière de ses solitudes sur laquelle il ne m'ait conté une histoire merveilleuse. Mais les légendes dorées dominaient sur tout le reste, car jamais pauvre diable ne fut plus prodigue de trésors dans ses récits. Dernièrement, nous fîmes ensemble une excursion de ce genre, pendant laquelle il fut encore plus communicatif que de coutume. Le soleil commençait à baisser quand nous sortîmes par la porte de la justice. Et comme nous montions une avenue plantée d'arbres, Matteo s'arrêta sous un groupe de figuiers et de grenadiers au pied de la tour en ruine que l'on nomme la tour des 7 étages. Là, me désignant un arceau dans les fondations de la tour, il me dit qu'un esprit, un fantôme horrible, hantait cette tour, même du temps des morts, et gardait les trésors d'un de leurs rois. « Quelquefois, me dit-il, il sort au milieu de la nuit et parcourt les avenues de l'Alhambra et les rues de Grenade sous la forme d'un cheval sans tête que 6 chiens poursuivent avec des aboiements, des hurlements affreux. « L'avez-vous quelquefois rencontré vous-même, Matteo ? Lui dis-je. « Non, Seigneur, Dieu merci. Mais mon grand-père le tailleur a connu plusieurs personnes qui l'ont vu, car il sortait dans ce temps-là bien plus souvent qu'à présent, et tantôt sous une forme, tantôt sous une autre. Il n'est fils de bonne mère à Grenade qui n'ait ouï parler du Beyado, dont le nom sert aux vieilles femmes et aux nourrices pour effrayer les petits-enfants et les faire taire quand ils crient. Plusieurs disent que ce Beyado est l'esprit d'un méchant roi mort qui tua 6 de ses fils et les fit enterrer sous ses voûtes, et qu'ils le poursuivent la nuit pour se venger de sa cruauté. Je n'entrerai point dans les détails merveilleux qui me furent donnés par Matteo sur ce fantôme formidable qui, de temps immémorial, est un sujet favori de contes mystérieux et de traditions populaires d'Engrenade, et duquel un grave historien topographe de cette ville fait une mention très honorable. Je rappellerai seulement que c'est dans cette même tour que se trouve la porte par laquelle l'infortuné Boabdil sortit de son palais pour la dernière fois. Laissant ces ruines hantées, nous continuâmes notre course en côtoyant les riches vergers du Generalife, dans lesquels 2 ou 3 rossignols faisaient entendre leur douce mélodie. Derrière ces vergers, se trouve une suite de bassins mauresques, près desquels est une porte creusée dans le roc, mais dont l'ouverture est comblée. Matteo me dit qu'il venait souvent dans son enfance se baigner avec ses jeunes camarades dans ces viviers, mais qu'ils en avaient été chassés par l'histoire qui leur fut contée d'un mort enchanté, de hideuse figure, que l'on voyait sortir tout à coup de la porte du rocher pour se saisir des imprudents baigneurs. En quittant ces viviers enchantés, nous suivîmes un sentier de mules qui tourne les collines et bientôt nous nous trouvâmes au milieu de montagnes sauvages et tristes, totalement dépourvues d'arbres et seulement couvertes çà et là d'une verdure maigre et fanée. On ne voyait autour de soi qu'une nature âpre et stérile, et l'on pouvait à peine se persuader que l'on fût à côté du Generalife, de ses vergers magnifiques, de ses jardins en terrasse et dans le voisinage de la délicieuse Grenade. Mais telle est l'Espagne, agreste et sévère, dès qu'elle s'échappe à la culture, le désert et le jardin s'y montrent partout côte à côte. On appelle l'étroit défilé dans lequel nous venions de passer El Barranco de la Tinaja, ou le ravin de la Jarre, parce qu'une jarre pleine de monnaie d'or des mauresques fut trouvée là dans les anciens temps. La tête du pauvre Matteo travaille sans cesse sur ces légendes dorées. « Mais, lui dis-je, que signifie cette croix que j'aperçois là-bas, sur ce monceau de pierre, dans la partie la plus étroite du ravin ?»«
Ce n'est rien, seigneur, un muletier qui fut assassiné à cette place il y a quelques années. Voilà tout. »
Ainsi vous avez des voleurs et des meurtriers jusqu'aux portes de Grenade?
Non, pas à présent, monsieur. C'était seulement dans le temps que la forteresse était remplie de tant de vauriens. Mais on a extirpé toutes ces mauvaises herbes. Ce n'est pas que les bohémiens qui habitent les cavernes de la colline vaillent beaucoup mieux. Mais au moins, n'avons-nous pas eu de meurtre depuis assez longtemps? L'homme qui tua le muletier a été pendu dans la Alhambra. »
Nous continuâmes à monter le ravin, ayant à notre gauche une montagne rocailleuse et hardie, nommée la Silla del Moro, le siège du mort, parce que, d'après la tradition déjà mentionnée, l'infortuné Boabdil se réfugia sur cette montagne pendant une insurrection populaire, et passait des jours entiers assis sur son sommet, regardant tristement sa ville factieuse. Nous arrivâmes enfin sur la plus haute partie du promontoire qui domine Grenade, et que l'on nomme le Mont du Soleil. La nuit approchait, les cimes les plus élevées étaient dorées par les derniers rayons du jour. On voyait ici un berger solitaire, chassant son troupeau le long des collines pour le ramener au bercail. Là, un muletier, avec ses mules chargées, se hâtant de traverser une gorge de montagne afin d'arriver aux portes de la ville avant la nuit. Les sons lointains de la cloche de la cathédrale montaient jusqu'à nous et annonçaient l'heure de l'Angélus. Les cloches de l'église de la ville et les clochettes argentines des couvents de la montagne répondaient à cet appel. Le berger s'arrêta sur la pente de la colline, le muletier au milieu de la route, ils ôtèrent leurs chapeaux et restèrent quelques minutes immobiles, prononçant à voix basse leur prière du soir. Je trouve quelque chose de doux et d'imposant à la fois dans ce signal harmonieux qui appelle à tous les habitants de cette terre à offrir tous ensemble leurs actions de grâce au Créateur pour les bienfaits qu'il leur a accordés pendant la journée. Une sainteté passagère semble se répandre sur la nature entière, et le soleil disparaissant dans toute sa gloire ajoute encore à la solennité de cet instant. La sauvage solitude de la montagne aride sur laquelle je me trouvais alors rendait cet effet encore plus frappant. Des citernes, des viviers en ruine et les fondations de bâtiments d'une grande étendue attestaient que cette cime sourcilleuse, où régnait maintenant le silence et la désolation, avait été jadis couverte d'habitants. Tandis que nous errions parmi ces débris des anciens temps, Matteo me montra un trou circulaire qui paraissait pénétrer profondément dans le sein de la montagne. Sans doute c'était un puits creusé autrefois par les morts, infatigables dans leurs travaux pour se procurer de l'eau pure et fraîche. Mon écuyer en jugeait cependant tout autrement. Il supposait que ce puits servait d'ouverture aux cavernes de la montagne, dans laquelle Boabdil et sa cour étaient enchantés
et qu'ils sortaient à des temps réguliers pour visiter leurs anciennes demeures. Le crépuscule, qui, dans ces climats, est d'une si courte durée, nous avertissait qu'il était temps de quitter ce repère de fantômes. En descendant la montagne, nous ne voyions plus ni berger ni muletier, nous n'entendions plus aucun bruit, hors celui de nos pas et le cri des grillons. Les ombres de la vallée devenaient de plus en plus sombres. Enfin, tout s'obscurcit autour de nous. Le sommet élevé de la Sierra Nevada retenait seul un dernier rayon de lumière, et l'on voyait briller sur un ciel bleu ses pointes neigeuses que la pureté de l'air faisait paraître presque à côté de nous. « Comme la Sierra semble près de nous ce soir, monsieur, » dit Matteo, « on dirait qu'on va la toucher avec la main. Cependant, elle est à plusieurs lieues. » Tandis qu'il parlait, une étoile se leva au-dessus du sommet neigeux de la montagne. Cette étoile, la seule visible dans les cieux en ce moment, était si pure, si brillante, si belle, que Matteo s'écria dans son ravissement « Che estrella bella! Che clara e limpia es! Non può essere estrella más brillante! » Quelle belle étoile! Quel éclair est pur! Aucune étoile ne pourrait être aussi brillante! J'ai souvent remarqué l'extrême sensibilité des Espagnols des dernières classes pour les beautés de la nature. Le scintillement d'une étoile, le parfum d'une fleur, le pur cristal d'une fontaine leur fait éprouver une sorte de délice poétique. Et tous les mots euphoniques de leur idiome majestueux sont employés à exprimer leur transport. Mais quelles sont ces lumières que je vois briller sur la Sierra Nevada, juste au-dessous de la région des neiges? On les prendrait pour des étoiles si leur clarté n'était pas rougeâtre et si elles n'étaient pas collées sur le flanc noir de la montagne. Ce sont des feux allumés par des hommes qui ramassent de la neige et de la glace pour les porter à Grenade. Ils se rendent à la Sierra toutes les après-midi, avec des mulets et des ânes, et se relaient pour remplir les paniers de glace et se réchauffer auprès des foyers. Ensuite, ils descendent et arrivent à la ville avant le coucher du soleil. Cette Sierra, Seigneur, est un beau morceau de glace placé dans le centre de l'Andalousie pour l'entretenir fraîche pendant l'été. L'obscurité était complète, et nous traversions le ravin où s'élève la croix du muletier assassiné, quand j'aperçus un grand nombre de lumières qui paraissaient avancer vers nous. Elles approchaient en effet, et nous vîmes que c'étaient des torches portées par une suite de figures bizarres, vêtues de noir. Cette vue, propre à causer en tout temps une sorte d'épouvante, était effrayante au plus haut degré, en ce lieu sauvage et solitaire, et à une heure semblable. Matteo se serra contre moi et me dit tout bas que c'était un mort que l'on portait au cimetière sur la montagne. À mesure que la procession passait, la lumière lugubre des torches, en tombant sur les rudes visages et les vêtements funèbres de ceux qui suivaient le corps, produisait un effet fantastique. Mais cet effet devenait horrible quand la lueur vacillante éclairait les traits du cadavre que l'on portait, suivant la coutume d'Espagne, dans une bière découverte. Je restai quelque temps immobile, après que le convoi eut disparu dans le sombre défilé. Ce spectacle m'avait rappelé le vieux conte d'une procession de démons emportant le corps d'un pêcheur sur le cratère de Stromboli.
« Oh, Seigneur, » dit Matteo, « je pourrais vous conter l'histoire d'une procession étrange que l'on a vue une fois dans ces montagnes.
Mais vous vous moqueriez de moi en me disant que c'est encore un des contes que m'a légué mon grand-père le tailleur. Ne craignez point cela, Mathéo. Rien ne me plaît davantage qu'une histoire merveilleuse, vous le savez. Eh bien, monsieur, celle-ci se rapporte à un de ces hommes dont nous parlions tout à l'heure et qui ramasse la neige sur la Sierra Nevada. Il faut que vous sachiez qu'il y a bien des années, du temps de mon grand-père, il y avait un vieillard que l'on appelait Tio Nicolo. Ce vieillard descendait la montagne après avoir rempli les paniers de sa mule avec de la neige et de la glace, et, comme il se sentait grande envie de dormir, il monta sur sa bête et bientôt s'endormit profondément, sa tête allant et venant en avant et en arrière, tandis que la mule marchait sur le bord des précipices, d'un pas aussi sûr que si elle eût été sur un terrain uni. Enfin, Tio Nicolo se réveilla, se frotta les yeux, et certes, il avait bien raison de chercher à s'assurer qu'il voyait clair. La lune était alors presque aussi brillante que le jour, et il découvrait la ville au-dessous de lui, aussi plate que votre main, avec ses blancs édifices resplendissants comme de l'argent. Mais hélas, monsieur, ce n'était pas la même ville qu'il avait laissée quelques heures auparavant. Au lieu de la cathédrale, avec son dôme et ses tourelles, des églises avec leurs clochers, des couvents avec leurs pinacles, tous surmontés de la Sainte Croix, il ne vit que mosquées, minarets et coupoles mauresques, couronnées du croissant, tel que vous le voyez sur les pavillons barbaresques. Vous imaginez bien, Seigneur, que Tio Nicolo fut grandement étonné en apercevant tout cela. Mais pendant qu'il regardait la ville, une grande armée montait la montagne, tantôt éclairée par la lune, tantôt plongée dans l'obscurité, suivant qu'elle sortait des ravins ou s'enfonçait dans leur profondeur. Quand elle fut proche de lui, il vit qu'elle se composait de fantassins et de cavaliers, armés à la manière des maures. Le bonhomme voulait s'éloigner, mais sa mule obstinée ne voulut pas bouger et resta collée à la terre, tremblant de tous ses membres. Car les bêtes sont aussi effrayées des apparitions que nous pouvons l'être, nous autres pauvres humains. Enfin, Seigneur, l'armée fantastique approcha. L'on y distinguait des hommes qui sonnaient de la trompette, d'autres qui battaient du tambour ou jouaient des cymbales. Mais ils ne formaient aucun son, et leur marche ne faisait pas plus de bruit que celle des armées peintes que j'ai vues traverser le théâtre à Grenade, et tous étaient d'une pâleur de mort. À la fin, après l'arrière-garde, le grand inquisiteur de Grenade, monté sur une mule blanche, marchait entre deux cavaliers morts tout noirs. Tio Nicolo fut bien surpris de le voir en pareille compagnie, car l'inquisiteur était connu pour sa haine violente contre les morts et toute espèce d'infidèles, de juifs ou d'hérétiques, qu'il poursuivait avec la flamme et le fer. Toutefois, Tio Nicolo se sentit plus rassuré en voyant ainsi saint prêtre à sa portée. Il fit le signe de la croix et lui demanda sa bénédiction. Quand, chose inouïe, il reçut au lieu de bénédiction un grand coup de poing qui le fit rouler avec sa mule dans le précipice. Tio Nicolo ne reprit ses sens que longtemps après le lever du soleil et se trouva au fond d'un ravin profond. Sa mule, à côté de lui, le regardait tranquillement. Ses paniers étaient renversés et toute sa glace fondue. Il se traîna, clopin clopant, jusqu'à Grenade et fut heureux d'y trouver les églises et les croix. Enfin, tout dans le même état où il l'avait laissé. Quand il conta son aventure, chacun lui rit au nez. Les uns lui disaient qu'il avait rêvé, d'autres qu'il inventait toutes ces choses. Mais le plus étrange de l'affaire, et ce qui fit songer aux gens qu'elle était plus sérieuse qu'ils ne l'avaient cru d'abord, c'est que le grand inquisiteur mourut dans l'année. J'ai même souvent entendu dire à mon grand-père le tailleur qu'il y avait un sens plus profond que l'on osait le soupçonner dans cette armée diabolique emmenant le fantôme de ce prêtre. Vous supposeriez donc, ami Matteo, qu'il existe dans le sein de ces montagnes une sorte de purgatoire mort dans lequel le père inquisiteur aurait été emmené? Dieu me préserve de supposer rien de semblable, monsieur. Je ne sais rien de tout cela. Je ne fais que raconter ce que je tiens de mon grand-père. Quand le bon Matteo arriva à la fin de ce conte, que j'ai succinctement narré, et qu'il avait au contraire allongé par de nombreux commentaires et des détails minutieux, nous nous trouvâmes à la porte de l'Alhambra.